Je mange lentement un kilo de miel avec une cuillère d'argent. Je bois lentement un litre de vin rouge dans un verre en cristal. Je brise le verre de ma main droite. Je dessine une étoile à 5 branches sur mon ventre avec une lame de rasoir. Je me fouette violemment jusqu'à ne plus ressentir aucune douleur. Je m'allonge sur une croix faite de blocs de glace. La chaleur d'un radiateur suspendu dirigé vers mon ventre fait saigner l'entaille en forme d'étoile. Le reste de mon corps commence à geler. Marina Abramović est ce soir notre invitée à l'occasion de son spectacle « 7 morts de Maria Callas » qui ouvre le 50e anniversaire du Festival d'automne à Paris. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Anony. Drone bomb me, blow me from the mountains and into the sea, blow me from the side of the mountain, blow my head off, explode my crystal guts, lay my purple on the grass. I have a glint in my eye, I think I wanna die. I wanna die. I wanna be the apple of your eye. So drone bomb me. From the mountains into the sea, blow me from the side of the mountain, blow my head off, explode my crystal guts, lay my purple on the grass, lay my purple on the grass. Let me be the first. À quel âge avez-vous su nager, Marina?
6 years old.
À l'âge de 6 ans.
And this was a really strong experience.
C'était une expérience forte.
Later on, I understood how this
Et plus tard, j'ai compris à quel point cette expérience avait été importante pour moi.
Really create what I am now.
Elle a été importante pour ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai failli mourir, en l'occurrence, lorsque mon père m'a donné cette leçon de natation. Il m'a mis dans un bateau après m'avoir appris à nager, si vous voulez, là où j'avais pied. Donc je me suis dit, bon, bah, ça va, je sais nager. J'apprenais. Et un jour, il a décidé de m'emmener en mer, sans me prévenir. Et il m'a pris par la main, comme si j'étais vraiment un petit chien, et il m'a lancé, balancé par-dessus bord, pour que je me débrouille, pour que je nage. Et je me dis, mais il va jamais revenir. Et j'ai commencé à couler. J'étais en train de me noyer. J'avais pas grande confiance déjà. Et alors là, j'ai perdu complètement mes moyens. Je me suis dit, mais je vais mourir. Et je me suis dit, mais il va se retourner. Je suis sa fille. Il va quand même pas me laisser mourir. Mais il ne s'est pas retourné. Il est parti à une centaine de mètres avec son bateau. Et là, il s'est arrêté. Toujours en me tournant le dos. Et là, je me suis dit, ben voilà, c'est ça. C'est soit je meurs, soit je me mets vraiment en colère. J'étais très en colère. J'ai décidé donc d'être en colère et de nager vers lui. Et à ce moment-là, il y a eu ce courage, cette volonté de survivre. Et donc, j'ai réussi à nager. Et il ne s'est toujours pas retourné. Il a vu que j'arrivais. Il m'a attrapé par le col et il m'a mise à bord. Je n'ai pas dit un mot, il n'a pas dit un mot non plus sur ce sujet, mais ça a été une expérience vraiment très forte et très dramatique. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour la digérer, parce que c'est ce jour-là que j'ai compris, effectivement, que je n'avais pas cet amour de mon père qui était là pour me soutenir, et je me suis dit, si je ne me prends pas par la main, si je ne prends pas les choses en main, je vais mourir. Et c'est comme ça que donc j'ai appris à me sauver. Et c'est quelque chose qui, par la suite, m'a été très utile dans ma vie, mais je ne le savais pas sur le coup, bien sûr.
Pourquoi, à votre avis, Marina, votre père vous a-t-il offert un revolver pour votre anniversaire à l'âge de 14 ans ? C'est un drôle de cadeau.
C'était tout à fait normal. De toute façon, mes parents, ils avaient un revolver à côté du lit, des communistes, des partisans, vous savez, c'était des héros, l'un comme l'autre, mon père comme ma mère. Donc, de toute façon, ils vivaient avec ça, avec des armes autour d'eux. Donc, lorsque j'avais 14 ans, effectivement, il m'a fait ce cadeau, ce revolver. Ce qui a été intéressant, c'est que c'était en fait un petit pistolet. Il était avec un manche en ivoire et des pièces en argent. Et il m'a dit, tiens, ça c'est ton pistolet d'opéra. Effectivement, c'est tout à fait avoir ce petit pistolet. Mais je me suis dit, mais pourquoi ça ? Pourquoi parler de m'opéra ? Et je me rends compte qu'effectivement, quand on sait ce que j'ai fait par la suite, c'était assez surprenant. Et il a voulu m'apprendre à tirer. Et puis après, je sais qu'il a disparu. Je sais pas, il s'est perdu. Je ne l'ai jamais retrouvé. Ce petit revolver. Et mon père comme ma mère étaient des gens, si vous voulez, qui étaient vraiment des gens de sang-froid, pas beaucoup d'émotions. Et je me souviens, elle m'a jamais embrassée et j'avais à peu près 40 ans. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais embrassée? Elle m'a dit, pour pas te gâcher, je voulais pas que tu sois gâtée. Et effectivement, elle ne voulait pas que je sois gâtée, mais en tout cas, au plan émotionnel, ça m'a fait beaucoup de mal. En tout cas, ce qui est certain, c'est que mon père comme ma mère m'ont appris à me battre, mais il faut pas oublier ma grand-mère quand même, puisque elle, c'est elle qui a le plus compté pour moi. Elle détestait les partisans, le communisme, tout ça. Vraiment, c'était une femme éminemment spirituelle. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais littéralement tout le temps avec elle. Elle croyait aux esprits. Et sa cuisine, c'était pour moi le centre du monde. On buvait le café à la turque. Elle me parlait des rêves qu'elle avait faits, des rêves que je faisais. Elle me disait, si je rêve de sang, il va se passer ceci. Et puis, si tu rêves de quelque chose qui tombe, ça veut dire ça. Et puis, si tu penses que quelqu'un de la famille est mort, ça veut dire ça. J'ai tellement appris auprès d'elle. Vraiment, j'aimais énormément sa présence. et l'échange avec
elle. À quel âge avez-vous eu vos règles et est-ce que vous avez compris quelque chose ce jour-là?
Nobody told me anything about my period.
On n'avait pas parlé de mes règles. En fait, je vous dis, c'était une bourgeoisie communiste dans laquelle nous évoluons après tout. Et je me suis dit, bah, effectivement, j'ai vu ce sang dans ma culotte et j'ai eu peur. Je me suis mise à crier et c'est l'employée de maison qui m'a dit ce que c'était. C'est elle qui me l'a dit, j'avais aucune idée.
Je ne sais pas ce que
ça a vraiment changé. J'étais pas du tout conscient de tout ça. Être une femme, pas être une femme. J'ai perdu ma virginité. J'avais 24 ans, hein. même un peu plus.
Can you describe how?
Oh my God! I think people should read the book.
Bah, il faut que les gens lisent le livre. Je crois. Si je raconte tout, personne va rien lire. Mais c'est vrai que c'est une histoire assez amusante.
You decided.
Yeah, because everybody in my academy.
J'ai décidé. Effectivement, dans l'académie où j'étais, tout le monde avait déjà eu des expériences sexuelles. Et moi, c'était pas possible parce qu'il fallait que je rentre tous les soirs à 10 heures.
I remember once that I was looking for the guy who
je me souviens, j'avais repéré le dragueur de service à l'école et je dis « Ah, j'ai des nouveaux disques, je peux pas venir chez toi un samedi pour qu'on l'écoute ?» Il m'a dit « Bah d'accord, alors quelle heure ?» Bon, 10 heures, comme ça je pouvais dire à ma mère que j'allais par exemple à une matinée au cinéma à 10 heures. Je dis « 10 heures, un samedi, à 10 heures du matin, mais ça va pas bien ou quoi ?» Il voulait qu'on se voit plus tard, enfin bref. Je suis donc allée acheter un cognac albanais, le cognac le plus cheap qu'on puisse imaginer. C'est du cognac qui est fabriqué le matin et qui est bu l'après-midi et qui met vraiment, si vous voulez, à mal la mémoire parce qu'il abîme le cerveau. Enfin, je ne pouvais pas m'offrir quelque chose de plus grande qualité. Donc c'est ce que j'ai acheté. Je voulais, je suppose, si vous voulez, me couper de l'inquiétude, de la douleur que j'avais à l'idée de perdre ma virginité. Et donc 10 heures, il ouvre en pyjama. On a mis la moitié de la bouteille de cognac dans le café, on commence à écouter des disques ensemble et on commence à attaquer les préliminaires sur le canapé. Et il s'est rendu compte à ce moment-là que j'étais vierge. Il s'est mis en colère vraiment. Il est parti, il n'était pas très content. Mais après cette première expérience où j'ai perdu ma virginité, j'ai attendu un an avant d'avoir une seconde expérience, vous savez. Moi, je voulais absolument pas l'histoire classique où on perd sa virginité, on tombe folle amoureuse, etc.
Non.
Ma première performance, c'était Washing Machine, la machine à laver. Une autre qui a été très importante. Et à chaque fois, je disais à ma mère, bon, je vais faire telle expérience, et ma mère me donnait une gifle. Donc, je voulais vraiment élaborer toute une construction.
Et
donc, j'ai fait cette opération Brigitte Bardot. J'ai cherché des photos de partout, de face, de derrière, de côté, de profil, tous les Brigitte Bardot possibles. J'ai mis ça dans ma poche. Et puis, c'était un matin, ma mère était partie prendre un café avec des amis, mon père était parti jouer aux échecs, bref, j'étais toute seule à la maison. Et donc là, je suis allée dans la chambre de mes parents. Et donc, ils avaient un lit absolument parfait. Donc, j'ai tourné sur moi-même et je me suis frappée contre le bord qui était assez aigu du lit. Donc, je me suis fait une blessure au nez. Après, j'ai suis coupé, bien sûr, le nez et la joue. Donc, je suis tombée, voilà. Et ma mère est arrivée. Elle m'a frappée, elle m'a donné une gifle, et voilà.
Mais avant de faire de la performance, Marina, vous étiez déjà une artiste. Vous avez été peintre. Et c'était bien ce que vous faisiez. Pourquoi vous avez abandonné la peinture?
You know, the first thing, I was always jealous of Mozart because he started with seven.
And my déjà, first show, I was 12. Parce que j'avais 12 ans, j'avais 12 ans que j'ai fait ma première performance, donc c'était assez tôt. Mais de toute façon, ce que je peignais avant cela, c'était mes rêves. C'était mes rêves, c'était mes sujets, j'avais envie de les peindre. Après, j'ai pu peindre des nuages, beaucoup d'autres choses, mais très souvent, ça renvoyait au ciel, aux nuages. Et puis, il y avait ces nuages qui renvoyaient à des projections, d'autres qui protégeaient, d'autres qui faisaient penser aux êtres humains. Et je me souviens qu'un jour, j'étais dans le parc, j'étais assis sur l'herbe et je regardais les nuages, mais il n'y en avait pas. On avait un ciel parfaitement bleu et tout à coup, je vois arriver 12 ou 14 avions supersoniques de l'armée qui ont fait donc des zébrures, des traces dans le ciel. Et ça a été pour moi une sorte de dessin qui s'est fait, puis qui ensuite a disparu, s'est estompé, et le ciel était à nouveau bleu, un bleu d'azur. Et ça, ça a été une révélation spirituelle pour moi. J'ai regardé ça, et je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir faire quelque chose de bidimensionnel. Je peux faire autre chose. Je peux utiliser le feu, l'eau, mon corps, la poussière, les éléments, des objets. Ça a été une révélation très importante. Et à ce moment-là, j'ai voulu bien sûr faire le dessin de ces avions. Donc j'aurais voulu bien sûr qu'ils repassent dans le ciel pour que je puisse dessiner. Mon père m'a dit, mais tu penses bien faire revoler 12 avions ultrasoniques de l'armée, mais tu rêves ou quoi? Et donc ça s'est terminé comme ça. Mais en tout cas, c'est le moment où j'ai compris que la performance était quelque chose de très important pour moi. Pour un artiste, le plus important, c'est de trouver son média, son support, son moyen d'expression. Et j'ai de la chance parce que, assez tôt dans ma vie, j'ai compris que ce qui était important pour moi, c'était la performance. Je voyais que, quand j'étais face au public, il y avait cette image qui se créait pour moi. C'est quelque chose que j'ai jamais oublié, c'est l'intensité du ressenti à ce moment-là.
Quand vous avez commencé à faire vos performances, Marina Abramović, la performance existait déjà. Et pourtant, vous avez inventé la performance. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Est-ce que c'était le danger que vous preniez vous-même qui a changé la donne?
Quand j'ai commencé à faire la performance, je ne savais même pas que ça existait. Au départ, il y avait de l'art conceptuel, il y avait des happenings, mais moi, je n'avais pas vraiment ces informations en ex-Yougoslavie. On savait qu'il y avait peut-être des artistes qui faisaient ce genre de choses, mais de loin. C'était un petit peu, si vous voulez, j'étais un peu la première femme à marcher sur la Lune, hein, à Belgrade, quand j'ai fait ça. Et j'ai pas regardé à l'extérieur de moi. Le corps est un univers après tout. Ce que je voulais, c'était explorer cet univers corporel, là, les limites du corps mental, du corps physique. Et j'ai commencé à travailler avec mon corps à moi, et c'est devenu, si vous voulez, l'objet central de mon travail.
Je vous propose d'écouter la voix d'Antonin Artaud. C'est un extrait de sa fameuse conférence qu'il avait faite à Paris et qui s'intitulait « Pour en finir avec le jugement de Dieu ».
Tuez-moi, si vous le voulez. Il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organe, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez apprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des balmusettes, et cet envers sera son véritable endroit.
Artaud, il vous a influencé, Marina?
You know, for me, I read things, I see things, I look cinema.
Je vois des choses, je lis des choses, je suis le cinéma, le théâtre, je rencontre des gens. Mais je ne peux pas dire que je sois véritablement influencé par autrui. Certains artistes, eh bien, si vous voulez, ils ont leur art, mais moi, je ne veux pas avoir une espèce d'influence de deuxième main. Moi, la source, c'est les civilisations anciennes, les aborigènes, les chamans du Brésil. C'est ça ce qui m'influence. Les volcans, l'eau, le sommet des montagnes, on a ce chi, cette énergie qui est présente. Ce sont ces lieux-là qui, moi, m'influencent dans ce que je fais. Artaud, bien sûr, je l'admire, je l'apprécie énormément, mais je ne veux pas peut-être employer le terme d'influence. Ce n'est pas des gens qui m'ont influencé, mais qui m'ont enseigné des choses, qui m'ont appris
que
l'ego de l'artiste fait obstacle à son œuvre, à son travail. Il faut être humble, il faut se défier de son propre ego quand on est un artiste. Et qu'il faut tout donner à son travail, quitte à sacrifier sa vie personnelle, comme l'a dit John Cage, par exemple. On est là pour donner, contribuer, donner quelque chose à autrui, à la société.
Vous venez d'évoquer votre séjour chez les aborigènes d'Australie. Vous étiez avec votre premier mari. Je crois que ça a été très important, ce séjour chez les aborigènes. Pourquoi ?
Pour moi, la culture aborigène, c'était très important. La performance, eh bien, les aborigènes, eux, ils vivent leur vie à travers la performance. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font trois fois par an. Les cérémonies, elles ont lieu tout le temps. Et puis, il y a aussi la relation au sol, à la terre, à la planète, leur lien avec les arbres, avec les pierres, avec les roches, avec le sol et la terre, c'est très important de comprendre ça pour comprendre leur univers aux aborigènes. Et aussi, ils sont très loin du matérialisme, ils n'ont pas de possession, ils ont une vie nomade.
Then they have this incredible, the extra sense of perception.
Et puis, ils ont ces capacités de perception exceptionnelles. Ils arrivent à faire parcourir également de très longues distances sans se fatiguer. Et ils font, donc je disais, beaucoup de performances. C'est très important pour eux. Donc ça a été un processus d'apprentissage important pour moi. Et si vous voulez, sont en fait les Tibétains et les aborigènes qui m'ont le plus influencé. Les aborigènes sont des êtres éveillés, je pense. Quant aux Tibétains, ils ont des techniques de parvenir à l'éveil de leur côté. Donc j'ai essayé de m'immerger dans ces cultures. Quand on fait une performance, il faut être présent ici et maintenant. C'est ça le plus important. On ne peut pas être face à un public en étant absent ou ailleurs. Il faut être là, ici et maintenant. Et pour avoir cette présence, eh bien, il faut déployer un effort considérable. Comment créer ce lien énergétique avec le public? Comment faire des choses avec rien? Souvent, c'est une forme immatérielle d'art, la performance. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, l'accrocher au mur. Un tableau, vous l'accrochez, il est là. Là, avec la performance, c'est le vécu, l'expérience. Et le public, il repart avec quoi? Le souvenir et rien d'autre. Donc, c'est difficile de faire quelque chose qui va vous bouleverser émotionnellement. Pour y parvenir, il faut apprendre à explorer comment fonctionne votre mental, votre corps, et Je pense que le siècle dernier, j'ai dit que l'avenir de l'art, c'est l'art sans objet entre l'artiste et le public, tout passant par l'énergie. C'est une question de lumière, d'échange atomique, d'électricité, tout est là.
Pourquoi avez-vous mis votre vie en danger dans la performance, Marina Abramović?
On m'a beaucoup critiqué, disant, allez, c'est du sadisme ou du masochisme, c'est pas de la performance, c'est du n'importe quoi. Moi, ça me fatigue d'entendre ça. Il faut quand même voir les choses d'un petit peu plus loin, prendre du recul. Vous voyez, les cérémonies, les rituels, ils renvoient quasiment toujours à une sorte de mort clinique. C'est l'antichambre du secret. L'être humain, il a peur de trois choses, souffrir, vivre la douleur et mourir. Et l'art, la littérature, le cinéma, ils sont fondés sur ces trois grandes peurs de l'humain. En l'occurrence, moi, je travaille avec mon propre corps. C'est-à-dire que je crée ces émotions que j'explore face au public, le danger, les limites corporelles, la douleur. Et ce que je montre au public, c'est que si moi, je peux le faire, eux aussi, ils peuvent le faire. Je fais, si vous voulez, office de miroir pour le public. Je lui montre que c'est possible. Et la seule façon de vivre pleinement, c'est être conscient que l'on peut mourir à chaque instant et y penser tous les jours. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut vivre pleinement la vie. Et puis, la douleur, on peut la comprendre, on peut la maîtriser également quand on la comprend. Donc, c'est des choses que je veux faire face au public. Et lorsque moi-même, je me libère de la peur, de la douleur, eh bien, je le fais passer au public et c'est ce que je souhaite faire.
Avez-vous toujours maîtrisé votre propre douleur ? Parce que dans le livre de mémoire formidable qui a été traduit en français, on voit bien que quelquefois, vous avez passé les limites. Yes. Avez-vous toujours été sous votre propre contrôle, Marina ?
Yes or not? I mean,
oui et non.
As the Tarantino says, shit happens.
Comme dit Tarantino, parfois ça se gâte. Shit happens en anglais. Effectivement, lorsqu'il y a eu cette question du feu, je ne savais pas du tout qu'il dégageait de l'oxygène, le feu, et que j'allais perdre conscience. Et il a fallu effectivement que quelqu'un du public m'éloigne du feu, sinon je ne serais plus là. Mais j'étais très en colère après ça. J'étais furieuse à l'idée que le corps avait ses limites. D'où l'idée suivante, je me suis dit, pour la performance suivante, même si je perds conscience, eh bien, je ne veux pas que le public s'en rende compte. Et puis le Little Zero, ça a été une autre performance. Que j'ai faite parce que j'étais en colère, j'avais 23 ans, j'en avais marre d'entendre des critiques sur les performances, j'ai pris ça vraiment très personnellement, toutes ces critiques. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait donc des objets que j'ai mis sur la table, y compris des pistolets, et j'ai dit oui, je suis un objet, faites de moi ce que vous voulez. C'était quand même assez dingue d'avoir fait ça, parce qu'après cette performance, il y a une chose que j'avais compris, c'est que oui, le public peut tuer quelqu'un, et il m'aura fallu 24 ans de plus, et attendre 24 ans pour mener encore une autre expérience où j'ai dit au public, vous pouvez vous asseoir en face de moi, vous pouvez me parler, me regarder. Donc, si vous voulez, dans un premier temps, j'ai travaillé, si vous voulez, avec l'esprit le plus grossier, je dirais, du public, et dans cette deuxième partie, j'ai travaillé avec peut-être la partie la plus élevée du mental ou de l'esprit du public. Mais ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire auparavant, je n'avais pas encore l'expérience, je n'avais pas la sagesse non plus à l'époque pour faire ce genre de choses. Et il aura fallu attendre, effectivement, il aura fallu que j'attende d'avoir 65 ans, sachant que ça a été très difficile physiquement, très exigeant, c'était quasiment surnaturel. Vous savez, rester assise pendant des 10 heures d'affilée sans bouger en face du public, ça a été l'enfer.
Et votre amoureux, Loy, a réapparu dans votre vie au cours de cette performance. Extraordinaire
oui.
Histoire.
Effectivement, il est arrivé. Ça a été le moment de vérité. Il y a eu 17 millions de vues, je crois, de ce moment. Puisque les gens ont vu cette relation, ça leur permet de projeter leur propre relation, ce qu'ils ont vécu. C'était rempli d'émotions. J'ai un ami américain qui m'a dit, moi je déteste ce que tu fais. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que tu me fais toujours pleurer. Le public, il veut une approche intellectuelle de l'art. Il veut comprendre, il veut lire. Mais avant de lire quoi que ce soit, avant de comprendre quoi que ce soit, ce que je veux, c'est que moi, mon art, il vous touche dans vos tripes comme un coup de poing dans l'estomac. Il faut que ce soit compris par tout le monde. Moi, je crois à ça, à cette forme d'art. Et puis, il y a une chose que je voulais ajouter. Je me disais, comment expliquer au public ce qu'est une œuvre d'art de qualité? J'ai une idée. Je vais vous expliquer. Vous êtes au restaurant, vous avez le sentiment que tout le monde vous regarde. Et vous vous retournez, et oui, il y a quelqu'un qui vous regarde effectivement. Vous allez au musée, vous regardez une œuvre d'art. Vous avez cette drôle de sensation qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Vous regardez, vous vous retournez, et il y a quoi? Une œuvre d'art. Et cette énergie qui vous pousse à vous retourner, ça veut dire que c'est une bonne œuvre d'art.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Marina Abramović et bien évidemment La Calas dans Carmen. Et ensuite, on écoutera un entretien de La Calas à propos de ses souffrances et de sa solitude.
Thank you. suis une femme avec les faiblesses qu'elle a, parce que pour mon métier, il ne faut pas avoir des faiblesses, des doutes et tout ça.
Vous avez des doutes?
Oh, tout le temps. Tout le temps. Parce que vous voyez, dans notre métier, on veut. Moi, je sais ce que je voudrais, mais je ne sais pas ce que je fais. Vous l'écoutez, des fois. Et des fois, je crois que c'est horrible, et vous dites que c'est... Vous, je parle en général, vous dites que c'est merveilleux. Et voilà qu'on devient fou. Et alors, tout le temps, on a des peurs, mais pas peur du public. De faire pas faire justice à nous-mêmes, à l'art où on sert. Vous comprenez?
Mais enfin, par exemple, cet air si beau de Bellini, de la Somnambule, que vous venez de chanter, qui est si pur, qui est si dépouillé, il vous donne beaucoup d'appréhension à chanter.
Surtout, disons comme ça, froidement, évidemment, dans le théâtre, c'est à la fin de l'opéra, vous êtes dans l'esprit, et tout est beaucoup plus facile dans le théâtre. Hélas, pour moi, vous savez que je suis un type un peu... que j'ai besoin de la chaleur du monde. Évidemment, ici, tous sont tellement gentils. Vous, pour commencer. Mais ce n'est pas la même chose.
La calasse, c'est vous?
Non. Calas is calas.
Non, non, la calasse, c'est la calasse. Et moi, je suis moi. Mais on a des connexions.
Comment vous êtes arrivé à la calasse? Vous vous ressemblez, d'ailleurs, hein?
Yeah.
Y compris physiquement?
Yeah. Wow, do you want to really know how it really starts?
Vous voulez vraiment savoir comment ça s'est passé? Ben, ça a à voir avec Paris, en fait. À l'époque, Jean-Hubert Martin était donc directeur de Pompidou. J'ai obtenu une bourse, je vivais donc dans un studio. Et après, j'ai étudié, bien sûr. Et après, quand j'avais plus de bourse, donc j'ai enseigné. Le ministère de la Culture donc lançait un concours en proposant à des artistes de présenter des projets qui étaient leurs rêves jamais réalisés. Donc je présente mon projet au ministère de la Culture. C'était en 89, on est en 2000, oulala, bref, c'était en 89, et donc je fais ce projet, et ça s'appelait How to Die, comment mourir. Quand on regarde la télévision, on voit des gens mourir à la télévision. Des bagarres, des manifestations, des décapitations. Quand on voit la mort dans la vraie vie, on change de chaîne et on change d'émission. Mais quand on voit des gens mourir dans un film ou au théâtre, quand c'est une mort, je dirais, esthétique, on va donc s'identifier au personnage et on va pleurer, on a toute cette émotion qui sort. Alors, ce que je voulais faire, moi, avec ce projet, je voulais aller voir Serra Pelada, qui est fermée. Mais il y avait, il se trouve, une mine d'or au Brésil. C'était... là que Salgado a fait des photos magnifiques à l'époque, les gens mouraient tous les jours. C'était la ruée vers l'or, c'était très dangereux, les gens mouraient. Donc, il y avait des avalanches ou des glissements de terrain en permanence parce que l'or était dans une terre très meuble. Et il y avait ces glissements de terrain, les gens mouraient tout le temps. Donc, j'ai voulu aller sur place. Je voulais filmer la mort. La vraie mort, tous les jours, au quotidien. Et dans le même temps, je voulais, si vous voulez, mettre ça en parallèle avec la mort à l'opéra. Mais je voulais filmer la mort à l'opéra dans la mine. Donc la Tosca, etc. Normal, j'aurais voulu faire tout ça dans la mine. Au Brésil. Et je voulais en fait demander à des designers français, si vous voulez, de créer une Carmen avec de la soie rouge, des mètres de soie rouge. Je voulais que Yves Saint-Laurent fasse, par exemple, Norma. Je voulais demander à Yamamoto de faire Lucia de la Mermo, voilà, des couturiers, je leur en ai parlé, ils ont tous été très intéressés, mais le coût était faramineux, bien sûr. Et vous imaginez bien que le ministère de la Culture n'a jamais approuvé ce projet, mais j'avais toujours gardé cette idée quelque part dans ma tête. Et je me disais, mais comment est-ce que je pourrais faire ça? Je me suis dit, bon, effectivement, je ne peux pas faire ça dans une mine, alors je pourrais peut-être demander à plusieurs réalisateurs de s'y attacher. Chacun réalisateur serait chargé d'un décès. J'ai appelé Polanski, il faisait autre chose à ce moment-là. Inarito, je demandais qui était intéressé, mais enfin... Tous ces réalisateurs, ils ont dit, bah, peut-être, mais en tout cas, j'arrivais pas à organiser 2 semaines de tournage. C'était des gens d'un tel calibre, ils étaient toujours occupés ailleurs. Donc, les années ont passé et rien ne s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai eu une autre idée. Je me suis dit, bon, je ne peux quand même pas laisser tomber ce projet, mais et pourquoi pas l'opéra? Je ne connaissais pas très bien l'opéra, mais il se trouve qu'il y a 4 ans, à l'Opéra de Munich, il y a eu ce premier projet de Nicolas Bachelot. Il m'a dit, moi je voudrais bien vous rencontrer, j'ai une idée, j'ai un projet. Et j'étais à l'époque en Suède, donc on a pris rendez-vous, on a déjeuné ensemble, il m'a dit, voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, avec Kipper, et j'aimerais bien travailler avec vous. J'aimerais bien que vous réalisiez un opéra, Barbe Bleue, me dit-il. Je dis, alors je suis vraiment désolée, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Je dis, par contre, j'ai un projet, les 7 morts de Maria Callas. Ça a été réglé en 2 phrases. Il a dit, c'est d'accord, on y va. Et c'est là que tout a démarré. Vous savez que toutes les femmes dans l'opéra, elles meurent d'amour et par amour. Et vous savez, dans l'esprit de la Callas, c'était la même chose. C'était Onassis qui mourait à chaque fois. Mon opéra, vous savez, ça dure 1h30, alors que classiquement, un opéra, ça dure 4h, 4h30. Là, c'est un peu court, parce qu'il n'y a que des scènes de mort. Il y a 7 décès, 7 morts. À l'opéra.
Riccardo
Tisci a fait des costumes absolument splendides. Et pour les chanteuses, pour les chanteurs, tout le monde a le même costume. Donc une soie grise. Donc, on se dit, mais alors, pourquoi est-ce qu'ils sont tous habillés pareil? On voit les 7 décès, on ne comprend pas pourquoi elles ont toutes la même robe, jusqu'au moment où on arrive au 8e décès. Et ce 8e décès, c'est celui de la Callas. Et donc, on comprend, on se retrouve dans sa chambre, à elle, la Callas, ici, à Paris. On a tout reproduit à l'identique, dans les moindres détails. Et donc elle meurt à son tour avec cette reprise.
Et
elle a tout laissé à Bruna. Elle a tout laissé sa fortune à Bruna, qui était sa dame de compagnie, sa seule compagnie à vrai dire. Et toutes ces chanteuses des parties antérieures deviennent les 7 Bruna. Qui arrive à ce moment-là dans cet espace de ce 8e décès, celui de la Callas. Alors, on couvre les miroirs, vous savez, pour se prémunir des esprits, comme cela se fait dans le rite funéraire. Et dernière partie, on entend un gramophone, et là, on entend la voix de la Callas sur ce gramophone. Et c'est sa voix. Et j'incorpore sa gestuelle, sa manière qu'elle avait de se tenir devant le public. C'est très intéressant, cette gestuelle. Elle avait cette présence absolument incroyable, électrique, cette force et vulnérabilité à la fois. Elle était tellement fragile d'une certaine manière. Et c'est ça ce que j'ai essayé de faire ressentir. C'est quelque chose que je ressens aussi dans ma propre personne. Oui, j'ai de la force, oui, je sais me battre, mais oui, il y a aussi de la fragilité, et c'est ça qui fait ce que je suis, moi et aussi la Calas. Elle a dit quelque chose de très important une fois à la Calas. Elle a dit, lorsque je suis sur scène, ce qui est très important, c'est qu'une partie de mon cerveau est la maîtrise totale de la situation, tandis que l'autre partie de ce cerveau lâche prise. Et si vraiment on parvient à maintenir un équilibre entre cette maîtrise et ce lâcher-prise, alors on fait une bonne performance.
À un moment, dans la mise en scène, Marina, on a l'impression que vous voulez presque l'empêcher de mourir, Calas. Vous lui demandez de respirer, breathe, 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 comme si vous vouliez la ressusciter. Est-ce exact?
You know the Peter Skalman, who is Peter Skalman, a writer from Oslo, but also he
writes
the Oslo movies. He wrote the script and he read script with me together.
Le scénario, le script avec moi. Donc, je lui demandais, je lui disais ce que je voulais faire passer. Je ne suis pas écrivain moi-même, mais je voulais vraiment qu'on imagine ensemble ces derniers instants dans son lit. Il y a Bruna qui apporte le café, et on peut imaginer qu'elle soit morte. On peut imaginer aussi qu'elle s'écroule entre son lit et la salle de bain. On peut imaginer qu'elle s'écroule dans la salle de bain ou en chemin. Enfin, il y avait tous ces scénarios possibles et imaginables, avec cette espèce de soliloque qui se passe où on réfléchit, où on voit défiler le passé et les souvenirs. Et donc j'ai ça, et en même temps je lui dis, ne meurs pas, effectivement. Mais après, elle ouvre la fenêtre et elle dit, ça c'est Paris, et elle sort de la scène vers la vie, parce que pour moi, mourir, ce n'est certainement pas aller vers l'obscurité, mais vers la lumière, bien au contraire. Et à ce moment-là, elle va apparaître, c'est son esprit. En fait, le corps physique n'est plus là, mais l'esprit, oui.
Vous êtes aussi solitaire que Maria Callas en ce moment?
Non, I'm, you know,
Non,
il
y a une autre similitude. J'ai failli, vous savez, mourir, le cœur brisé, mon ex-mari. Ça a été très, très dur, un moment très difficile. Je ne suis pas morte. Ce qui m'a sauvée, c'est mon travail.
Et
moi, mon travail m'a sauvée. Ça n'a pas été son cas à elle, à Maria Callas. Et quand je regarde les photos sur le lit, ce n'est pas les photos de la Calas que je regarde, c'est les photos de moi, de ma vie. Et les photos que je montre, en fait, c'est la photo de l'homme qui m'a brisé le cœur. Donc je voulais qu'il y ait cette connexion. Mais bon, 10 ans ont passé. Entre-temps, j'ai un boyfriend génial. Il a 21 ans de moins que moi.
Sex and rock'n'roll.
Moi, je suis de la génération du sexe, de...
As we have this interview,
il est là, il est en train de travailler dans la salle d'à côté, là, pendant qu'on a cette interview. Je vous le présente, si vous voulez.
Ben, merci infiniment, Marina Abramović. Je rappelle que les 7 morts de Maria Callas ouvrent le Festival d'automne, et que c'est les 18 milliards de vies de Marina Abramović aussi.
Ville familière jusqu'aux sanglots, jusqu'aux ganglions de l'enfance, jusqu'aux nervures sous la peau. Tu es de retour, avale donc d'un trait l'huile de foie de morue des lanternes de Leningrad sur les quais. Le petit jour de décembre, reconnais-le bien vite, au jaune d'œuf dissous dans le goudron sinistre. Sur le quai, je ne veux pas encore mourir de mes téléphones, tu
les numéros, j'ai les adresses d'autrefois, je reconnais les morts à leur voix. À leur voix. J'habite l'escalier de service. Et la sonnette arrachée à la chair teinte dans ma tête. La nuit jusqu'à l'aube, j'attends les os de chair et les chaînettes de la porte cliquettent comme des fers sur les quais. Je ne veux pas encore mourir de mes téléphones. Tu as les numéros, j'ai les adresses d'autrefois, je reconnais les morts à leur voix. J'ai les adresses d'autrefois, je reconnais les morts à leur voix. Je suis revenu dans ma ville.
Et c'est avec « Je suis revenue » de Raphaël que nous allons nous quitter ce soir. Je rappelle que Marina Abramović signe la mise en scène de son nouveau spectacle qui s'intitule « Les sept morts de Maria Callas » à l'Opéra de Paris jusqu'au 4 septembre. Et c'est le spectacle d'ouverture du 50e Festival d'automne. Merci infiniment à Hélène Joguet pour cette traduction simultanée. Merci à Romain Luquiens qui était technicien sur cet entretien. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanissian, ainsi qu'à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux.